Le deuxième était le second.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de Le Monde ne suffit pas de l'année, saison 3 déjà, avec à mes côtés toujours Antoine, fidèle au poste. Bonjour Antoine.
Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et nous lançons cette année avec un sujet qui a été au centre de l'actualité récemment, la peine de mort, en compagnie de Patrick Monnet, membre d'Amnesty International.
2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Alors, le sujet que nous abordons aujourd'hui, chers auditeurs, n'est pas très gai, mais il a été au centre de l'actualité de ces dernières semaines avec l'exécution de l'Américain Troy Davis et les 30 ans de son abolition en France. Vieille comme le monde, la peine de mort est présente dans l'Ancien Testament, courante en Grèce et en Roman antique. Elle reste une loi commune jusqu'au XIXe siècle où le mouvement abolitionniste commence à se développer, et notamment en France, à travers la figure de Victor Hugo, puis au XXe siècle, celle d'Albert Camus.
LMNSP fait le point avec vous sur l'application et les évolutions actuelles de cette pratique juridique, qui révolte les uns, mais rassure les autres. Et donc pour faire ce bilan, nous avons à nos côtés, au micro-transistor, Patrick Monnet, membre d'Amnesty International, association pour la promotion des droits humains qui s'est particulièrement engagée pour l'annulation de l'exécution de l'Américain Troy Davis. Bonjour monsieur, je vous propose de commencer par présenter rapidement à nos auditeurs les actions de votre association et en particulier dans ses relations avec la peine de mort.
Alors, je suis membre d'Amnesty depuis 1979 et je suis venu par une sensibilité par rapport à des interviews qui ont été faites au lycée où j'étais en 1976 sur Amnesty. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans Amnesty International, c'est le fait qu'on est apolitique. Apolitique, ça veut pas dire qu'on parle pas de politique, mais qu'on n'est pas pour un parti ou pour un autre, mais bien qu'on entoure l'ensemble de l'actualité des droits de l'homme dans le monde. Alors, Amnesty a été créé en 1961 par Peter Benenson, et qui a fait une lettre dans l'Observer à propos de trois personnes qui étaient emprisonnées au Portugal pour des raisons politiques, puisque le Portugal à l'époque était une dictature. Et cet écho en 1961, renouveau des droits de l'homme puisque c'était la fin des guerres coloniales, a rassemblé beaucoup de monde et très vite, au bout de 6 mois, Amnesty International a été créé. Donc Amnesty, c'est vraiment la défense des droits humains de base, c'est-à-dire que les droits civils et politiques, la liberté d'expression, d'association, de réunion, de religion, de pensée, et bien sûr le droit de se rassembler pour défendre ses idées.
Merci, et donc on va passer maintenant plus précisément au sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc le premier axe de l'entretien, on voudrait revenir sur le cas Troy Davis et la peine de mort aux États-Unis, et Antoine va nous faire un petit rappel sur les événements récents.
Oui Fabien, donc le débat sur la peine de mort a été relancé, comme nous le disions très récemment, par l'exécution de Troy Davis. Cet Américain de Géorgie a été condamné en 1991 pour le meurtre d'un policier à Savannah, commis 2 ans plus tôt. Il a passé 20 ans dans les couloirs de la mort, puis il a été exécuté par injection létale le 21 septembre, alors que de sérieux doutes pesaient sur sa culpabilité. En effet, l'arme à feu n'a jamais été retrouvée, et 7 des 9 témoins ont finalement avoué qu'ils avaient menti et que Troy Davis n'était pas celui qui a ouvert le feu. Parmi les 2 autres témoins restants qui ont maintenu leur version, l'un est lui-même accusé de meurtre et l'autre affirme que le tireur était gaucher, ce que n'est pas Troy Davis. Alors, au vu de ces éléments, comment expliquer que l'État de Géorgie a quand même voulu exécuter Troy Davis, malgré tous ses doutes?
Alors, on démarre tout de suite sur un cas précis, donc le cas de Troy Davis, dont on s'occupe depuis plus de 10 ans. C'est un cas particulier où la personne a toujours déclaré son innocence, et où très vite il y a eu des doutes extrêmement importants sur sa culpabilité. Il est bien à remarquer à côté de cela que Amnesty s'oppose à la peine de mort dans tous les cas, parce que l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme donne à chacun des êtres humains, quel que soit son comportement, le droit à la vie. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme demande à ce que la torture ne soit pratiquée en aucun cas, et nous on considère que la peine de mort est la torture ultime, cruelle et inhumaine. Donc le cas de Troy Davis reflète la politique des États-Unis, où notamment la Géorgie et les États du Sud, avec le Texas et l'ensemble des États du Sud, où le droit américain est géré par État, et ensuite il y a des cours dans des cours dans chaque État qui peuvent éventuellement prôner la grâce, et ensuite il y a la Cour suprême. Il se trouve que dans le cas de Troy Davis, Le procureur qui a donc déclaré coupable Troy Davis a été succédé. Enfin, c'est la fille de ce procureur qui lui a succédé et qui n'a pas voulu démentir la décision de son père et a donc toujours voulu conserver l'état de condamnation à mort. Et on trouve nous cela vraiment très scandaleux puisqu'il y a un irrespect des droits de l'homme que le fait que un des accusateurs soit éventuellement présumé coupable et que les preuves, que sept des témoins se soient désistés, que l'autre dit que la personne est gauchère, que c'est pas le cas de Troy Davis, montre bien qu'il y a vraiment des doutes extrêmement importants sur la culpabilité de Troy Davis. Et on a lutté avec d'autres associations, donc avec l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, avec des mains unies par justice, au niveau mondial avec les églises et autres éléments. Et pourtant, aux États-Unis, toute cette mobilisation de la population mondiale n'a pas eu d'effet parce qu'on a voulu, on n'a pas voulu remettre en cause la justice qui s'est prononcée en 1991. Donc il y a vraiment un gros problème là-dessus, sur le fait que on peut juger, on peut se tromper, on doit admettre au niveau des magistrats la possibilité de s'être trompé et de refaire un tribunal, refaire un jugement. Pour nous, c'est scandaleux. Il est fort probable que cette personne était innocente. Ses dernières paroles étaient qu'il faut continuer à lutter contre la peine de mort.
Concrètement, dans l'action que vous avez menée, donc que vous évoquiez, avec les autres associations, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit on va réussir à faire annuler l'exécution ou vous vous sortiez tout de suite à un mur?
Alors,
dans votre action.
On pensait au mois de juillet, donc le 2 juillet c'est une journée où malheureusement on commémore la reprise des exécutions aux États-Unis après 4 ans de moratoire sur la peine de mort en 1976. Et à cette date-là, on était pratiquement tous convaincus que Troy Davis pourrait obtenir un nouveau procès. Et malheureusement, au mois de septembre, on a appris qu'une nouvelle date d'exécution était fixée. Le 16 septembre, il y a eu des actions à Lyon, mais aussi dans toute la France. Il y a eu pas mal d'hommes politiques, de religieux qui se sont prononcés. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire changer la vie du procureur, enfin de la procureure au niveau des États-Unis et de la Géorgie.
Est-ce qu'on aurait vraiment pu faire annuler cette exécution ?
Juridiquement, nous, on ne voit pas comment on pourrait faire, puisqu'on n'a pas autorité sur une décision juridique. On n'a que des arguments à fournir pour dire « faites refaire un procès, remettez en cause les décisions prises en 91 et refaites un procès ». Et eux disent « les nouvelles preuves et les nouveaux éléments ne sont pas suffisants pour mettre en doute le procès de 1991 et de refaire un procès ». Et c'est là où il y a une mésentente, où pour nous, ça aurait dû être fait vraiment, quoi. Mais que peut-on faire? À part militants, nous ne sommes que des militants. L'ensemble des gens qui ont été écrits aux États-Unis au procureur, au directeur de prison ne sont que des militants, ou des gens même qui ne sont pas militants habituellement, mais qui ont été très sensibilisés par ce cas où vraiment l'innocence paraissait évidente et ont écrit. Mais après, comme moyen, on n'a pas d'autre moyen que d'écrire.
Est-ce que vous pensez que le contexte propre à l'État de Géorgie a pu jouer dans ces états noirs américains où il y a une tendance raciste qui perdure encore et où ça a pu influencer cette décision, par exemple? Alors, faut-il faire des différences entre les états des États-Unis?
Au niveau des États-Unis, donc, il y a un certain nombre d'états des États-Unis qui ont aboli la peine de mort. Ce sont pratiquement tous des états du Nord. Et les anciens pays de la guerre de sécession, donc le Sud, a toujours été pour la peine de mort, où beaucoup des États conservent la peine de mort, et il y a quand même une discrimination extrêmement importante dans ce pays. C'est-à-dire que un noir qui tue un blanc, même si on est coupable, hein, un noir qui tue un blanc est pratiquement certain d'être condamné à mort, après ou à perpète. On a vu plusieurs cas de blancs qui ont tué des noirs dans les mêmes circonstances être condamnés à 2 à 3 ans de prison. Donc on voit vraiment qu'il y a une discrimination de par la race de la victime et du criminel. Mais la victime, la race, enfin l'origine de la victime a vraiment beaucoup d'importance dans les États du Sud des États-Unis.
D'accord, donc on voit que le 4 livres c'était aussi particulier, puisque c'était un état du Sud. Est-ce que finalement, depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis, globalement, le nombre d'exécutés a quand même un peu baissé? Et puis il y a eu récemment, le 26 septembre, une commuation de la condamnation à mort dans un autre état, dans l'Ohio. Alors est-ce que finalement, le 4 livres ne cache pas la forêt d'une légère avancée dans l'abolition aux États-Unis?
Alors, si on prend l'historique récent du comportement d'Amnesty, dans les années 95-96, Amnesty s'est centré pour la lutte contre la peine de mort aux États-Unis sur le cas des mineurs au moment du crime, des personnes déficientes mentales et des femmes enceintes. Et on a travaillé là-dessus, et entre 2002 et 2006, on a constaté aux États-Unis qu'il n'est plus possible maintenant de condamner à mort une personne qui a commis les crimes avant l'âge de majorité. Donc c'est un progrès qui est important. Deuxième élément, il a été défini aussi qu'on ne pouvait pas exécuter une personne, enfin passer la peine de mort, donc pour une personne qui est déficiente mentale. Alors après, il reste à définir vraiment dans chaque cas ce qu'on appelle déficient mental. Mais il y a eu des cas qui se sont passés avant les années 2000, où notamment un condamné qui a été exécuté avant l'exécution, donc les gens sont amenés dans des pièces particulières, dans le couloir de la mort, on leur offre un repas, la personne n'a pas mangé son dessert, et les gardiens lui ont dit pourquoi tu manges pas ton dessert? Et la personne a répondu je préfère le manger après, j'aurai plus le temps. Donc on voit vraiment qu'ils ont exécuté une personne qui n'avait même pas la conscience de la peine qui lui avait été infligé. Et il a été exécuté sans se rendre compte de ce qui se passait, quoi. Donc là, on a vraiment un progrès comme aux États-Unis où ce genre de cas n'existe plus à l'heure actuelle. Après, la déficience mentale, c'est à définir, mais il y a quand même un progrès qui est important. Il y a un certain nombre d'États qui ont aboli la peine de mort aussi, donc dans les années récentes, notamment un des gouverneurs généraux d'un État des États-Unis, le dernier jour de son mandat de gouverneur, a gracié l'ensemble des condamnés à mort de son État, parce que peu de temps avant, des erreurs avaient été commises de façon importante et des gens avaient été exécutés, et il a été démontré ultérieurement, notamment avec les ADN, que cette personne était innocente, quoi. Donc il y a une évolution importante là-dessus aux États-Unis, mais il y a encore du travail à faire, malheureusement.
Oui, parce que le chiffre là que nous avons, nous, c'est 47 exécutions aux États-Unis en 2010, c'est ça?
Tout à fait.
Ça fait une par semaine presque.
Une par semaine, et c'est surtout centré sur le Texas et les États du Sud. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de cas où il y a des exécutions. Au niveau politique aussi, on peut dire que la structure des États-Unis fait que les procureurs sont élus. Et en fait, dans des États, comme les États racistes du Sud, enfin entre guillemets, parce que ça touche pas toutes les personnes, mais c'est comme des tendances de l'État, en exprimant la dureté et le fait qu'aucun criminel n'échappera à la mort, ça permet aux gens de se faire élire. Mais après, ça fait qu'on maintient la peine de mort dans ces États sans réfléchir à d'autres moyens de juger les gens et de combattre la criminalité. Or, je ne sais pas si vous allez en parler après, mais le coût d'une exécution aux États-Unis, enfin le coût de gestion d'une personne condamnée à mort aux États-Unis, peut être de 3 à 4 fois plus élevé qu'une personne qui sera emprisonnée à perpétuité. Et tout ce budget qui est centré sur la peine de mort ne sera pas utilisé pour la défense des victimes dans ce même État.
Donc vous l'évoquiez là, les raisons qui font que la peine de mort est maintenue aux États-Unis. Je vous propose d'élargir un petit peu le débat à l'ensemble de la planète. Par une question qu'il faut, je pense, poser, c'est quels sont les arguments contre l'abolition de la peine de mort que vous rencontrez au jour le jour dans vos campagnes contre celle-ci, vous ?
Alors nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est que une personne a tué, donc elle mérite d'être tuée. Or, pour nous, un État ne doit pas avoir le même comportement qu'un criminel. Un État, ce sont des décisions réfléchies par des gens extrêmement qualifiés, les magistrats, défendus par des avocats ou des procureurs, accusés par des procureurs. Et c'est une réflexion profonde. Et pour nous, on ne doit pas avoir la même pratique que les criminels. Deuxième élément, la peine de mort, dans la plupart des pays du monde, n'a pas, pour nous, pas d'utilité particulière. C'est-à-dire que des études ont été faites, notamment en 88, lors d'une assemblée générale de l'ONU à Vienne, où il a été exprimé qu'après une étude assez longue, rien ne laissait présumer que la peine de mort pouvait avoir un effet plus dissuasif que le risque d'un emprisonnement à perpétuité. Ensuite, on nous dit toujours, oui, mais la famille de la victime souffre énormément et veut se venger. Lorsqu'on regarde la situation aux États-Unis ou dans d'autres pays, on voit souvent que lorsque les procureurs ou des partis prenant extrêmement la peine de mort s'expriment, les familles disent non, on ne veut pas participer à ce type de réflexion, on veut que la justice travaille normalement, et si cette personne est condamnée à mort, si la peine de mort est encore une peine qui existe dans le pays, ok, mais on ne veut pas pousser spécialement la peine de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une volonté de la famille de vouloir la peine de mort. Ensuite, il faut penser aussi à la famille de la victime, enfin de la personne exécutée, qui elle va voir disparaître une personne, même si cette personne était coupable, même si elle a commis un crime abominable, est-ce qu'on a le droit de supprimer la vie alors que l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit qu'on ne doit pas tuer ? Le droit à la vie est fait pour tout le monde, quoi.
Bien sûr.
Après, il y a, je ne sais pas si vous avez des arguments, parce qu'on peut voir l'ensemble des arguments. Bon, pour le terrorisme, par exemple, Amnesty a toujours insisté là-dessus, c'est le fait que si on condamne à mort des terroristes, ces gens-là vont passer pour martyrs. Mmh. Et ça peut amplifier la situation de terrorisme. Au niveau des déchets mentaux et des enfants, bon, enfin des mineurs au moment du crime, on en a parlé avec les États-Unis. Au niveau de la dissuasion, donc on vient d'en parler. Au niveau du coût, pour l'exemple des États-Unis, une personne condamnée à mort qui va rester plus de 20 ans dans le couloir de la mort va coûter beaucoup plus cher qu'une personne condamnée à la prison à perpétuité. Donc, les arguments, on a toujours de quoi répondre. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il ne faut pas confondre la justice et l'émotion. C'est-à-dire qu'une personne est tuée de façon peut-être odieuse. On a un ressentiment de haine à ce moment-là. On peut avoir ce ressentiment. Mais après, la justice va travailler sur le cas et faire le procès peut-être 2 ans après. Donc là, on n'est plus sous l'émotion, on est vraiment sur une décision qui a pour fonction de protéger la société de cette personne. Et à l'heure actuelle, l'ensemble des pays du monde ont la capacité de maintenir les gens isolés pour pas que cette personne refasse un crime odieux.
Un argument qu'on entend parfois aussi, c'est celui de l'échelle des peines. On l'a entendu en France, notamment dans certains milieux qui sont pour le rétablissement de la peine de mort, de dire que si la peine de mort existe, la perpétuité ne devient plus la peine absolue. Et ça permettrait de rétablir une échelle des peines qui se perd un peu en France aujourd'hui, où on a cette habitude de critiquer les raccourcissements des peines de prison. Et maintenir la peine de mort serait peut-être un moyen de restaurer cette échelle.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que le marquis de Beccaria, en 1764, a fait un premier gros ouvrage sur la définition des peines. Et c'est vrai qu'il a bien indiqué que la peine doit être légale. C'est-à-dire qu'elle est légale au niveau, on ne peut pas condamner une personne sur une peine si la peine n'était pas prévue dans la loi avant. Et toutes les personnes sont considérées au même niveau, quelle que soit leur origine, leur situation. Il a aussi parlé de l'utilité de la peine. Et la peine doit permettre d'empêcher la personne de reproduire un crime ou un délit. Donc pas la dissuasion, on met une pénalité de 1 000 euros à une personne qui a fait brûler une poubelle, peut-être qu'il va se dire, faut mieux pas que je recommence parce que ça me demande beaucoup de sous. Ensuite, il a parlé de la proportionnalité des peines. Et là, on lui a posé la question sur la peine de mort. Mais il parlait de la proportionnalité des peines en disant, plus le crime est odieux, enfin, plus le crime est important dans la classification des crimes, plus la peine sera importante. Par contre, il s'est toujours maintenu contre la peine de mort, parce qu'il considérait que, d'un point de vue religieux ou autre, dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras point. C'est pas marqué tu ne tueras point, sauf si machin truc, machin truc. Il a considéré aussi que la peine de mort n'avait pas d'utilité, que sa non-dissuasion était déjà démontrée dans pas mal d'études à son époque, et que la proportionnalité, une prison à perpétuité peut faire beaucoup plus peur à une personne que la peine de mort. Parce que, notamment, à son époque, bon, il y avait le crime de lèse-majesté qui était condamné à mort, qui faisait encourir la peine de mort. Et bien souvent, pour ce crime de lèse-majesté, les magistrats déformaient le procès pour pas avoir à condamner une personne pour insulte publique à des membres d'autorité. Donc, vraiment, cette proportionnalité, je pense pas que ce soit un argument pour dire que la peine de mort doit être établie. Parce que, on a l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit toute personne a le droit à la vie, quelle que soit sa situation, quel que soit son comportement.
D'accord, et je vous propose maintenant de voir un peu quelles sont les régions dans le monde qui pratiquent cette juridiction. Donc on a en tête la Chine avec plusieurs milliers en 2010 selon Amnesty, l'Iran ensuite avec environ 252 personnes et la Corée du Nord avec un peu moins avec 60 personnes. Mais on voit dans ce classement, donc les États qui pratiquent le plus la peine de mort sont souvent des États autoritaires. Mais pourtant, on voit aussi dans ce classement apparaître les États-Unis en 6e position ou même le Japon plus loin. Donc finalement, est-ce qu'il y a une spécificité de la peine de mort en démocratie par rapport à ce qu'elle est en dictature?
Alors nous, ce qu'on regrette au niveau d'Amnesty International ou des autres associations, c'est que les États-Unis maintiennent la peine de mort. Ça, on le regrette parce qu'on est contre la peine de mort. Mais c'est aussi sur le fait qu'ils ont une procédure juridique qui est quand même assez spéciale, et qui parfois, alors que des preuves ont été, amenées démontrant la non-culpabilité de la personne, il ne peut pas revenir sur le procès. Donc ça, c'est des pratiques qui nous paraissent archaïques au niveau juridique, et on demande vraiment aux États-Unis d'avoir des systèmes qui permettent de vérifier les preuves des gens qui ont été condamnés à 20 ans, et à 20 ans, les ADN, enfin, on ne savait pas utiliser ces éléments. Maintenant, on sait utiliser ces éléments, et lorsque ces éléments ont permis de prouver l'innocence d'une personne, il faut absolument qu'on ait la possibilité de faire un recours et de refaire le procès. Or, aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué.
Oui, c'est une problématique plus large sur la justice des États-Unis que sur la peine de mort.
C'est plus la justice des États-Unis. C'est-à-dire que, bon, il y a aussi aux États-Unis la discrimination qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on voit un blanc en vélo, on dit c'est un sportif. Quand on voit un noir en vélo, on dit que c'est un voleur. Quoi. C'est quand même un comportement qui est assez habituel dans le milieu américain. Après, je ne veux pas accuser l'ensemble des Américains. C'est une tendance qu'on voit quand même facilement, où c'est beaucoup plus facile de condamner un noir qu'un blanc. Dire que la peine de mort est liée à la démocratie, oui, quand même, parce que l'ensemble des pays de l'Europe, à part la Bélarusse, ont aboli la peine de mort. Donc c'est quand même, on voit quand même qu'il y a des tendances qui font qu'on abolit la peine de mort plus on avance dans la démocratie. L'exemple de la Chine, de la Corée du Nord, ce sont des exemples. Après, en Chine, la peine de mort entre dans une politique où il y a 55 crimes passibles de la peine de mort et où on fait plus ou moins les exécutions publiques pour maintenir un ordre par la pression. Il y a aussi un élément commercial qui ressort dessous, c'est que lorsqu'on a besoin d'un organe, foie ou autre, à greffer, on va définir la date de l'exécution par rapport à l'état du malade qui attend la greffe. Quoi. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de scandaleux, parce qu'on a fait rentrer à une dimension commerciale dans le système d'exécution. Donc ça, c'est vraiment scandaleux. La Chine, nous, on a travaillé il y a quelques années, vraiment centré sur la Chine, c'est compliqué, parce qu'il est compliqué à des gens d'Amnesty, des chercheurs d'Amnesty, d'aller en Chine pour enquêter correctement. Et on espère que ça s'améliorera. Mais il y a vraiment beaucoup de travail. Nous, un des objectifs, c'est quand même les États-Unis avant tout, parce que c'est un pays démocratique qui est quand même une justice qui est quand même pas négligeable, mais où il y a des lacunes importantes là-dessus. Et on a l'espoir que peu à peu, les États, les différents États qui restent affiliés à peine de mort, l'abandonnent peu à peu.
Et pour préciser un petit peu sur la Chine, on a trouvé un chiffre qui dit plusieurs milliers. Est-ce que vous avez un chiffre plus précis éventuellement de condamnations à mort?
C'est compliqué de savoir exactement le nombre de condamnations à mort aux États-Unis. En Chine, ça se situe entre 2000 et 3000, la plupart des années. Mais en fait, on a du mal à trouver les informations. Amnesty, il y a des chercheurs, donc des gens qui sont à Londres ou dans des territoires, et qui font de la recherche sur la presse, sur les différents types d'informations de ces pays, mais on a beaucoup de mal à trouver l'ensemble, à découvrir l'ensemble des condamnations à mort aux États-Unis. En Chine. Alors, on a d'autres pays, comme le Japon, où la peine de mort est aussi très secrète. C'est un pays évolué, c'est un pays civilisé, pourtant la peine de mort demeure secrète. La Bélarusse, qui est un pays, le dernier pays dictatorial d'Europe. Donc un ancien pays de l'Union soviétique qui a été indépendant depuis les années 90, où on a un gouvernement qui est extrêmement autoritaire et où la peine de mort est aussi tenue au secret. Quand une personne est condamnée à mort, qu'il fait des recours en grâce notamment, on lui annonce que le recours en grâce a été refusé et on l'invite à passer dans la pièce d'à côté où il va être tué par balle. C'est-à-dire qu'il y a un système juridique qui est vraiment, il n'y a aucune préparation spirituelle, aucun moyen de prière ou d'autres réflexions du coupable, de la personne condamnée. C'est vraiment des situations qui nous paraissent choquantes. Et je parle de la Bélarusse parce que notre journée du 10 octobre, donc lundi 10 octobre, va être centrée sur ce pays où il y a une volonté vraiment de faire voter un moratoire sur la peine de mort et au moins d'améliorer les conditions, que la famille soit au courant, que les moyens de défense soient équitables. On a des cas qui se sont passés en Bélarusse où les gens étaient condamnés à mort, où le recours en grâce a été refusé, où la personne a été exécutée et la famille n'a été mise au courant qu'un an plus tard, à force de demander dans quel lieu était détenu le fils, on leur a dit finalement qu'il était exécuté. Donc la famille a demandé où est-il maintenant ? On leur a refusé de leur donner le lieu d'enterrement de la personne. Donc là, on a vraiment une punition que l'on peut, enfin, qui est à discuter pour la personne, le criminel, mais la famille n'a pas pu retrouver, sauf tout autant, n'a pas pu récupérer le corps. Il y a vraiment une double peine, quoi. C'est vraiment.
Et dans un cas comme ça, pourrait-on concevoir que l'Union européenne ait une force de pression sur le Bélarus?
L'Union européenne a une force de pression contre la peine de mort dans beaucoup de cas. Il y a un certain nombre de cas aux États-Unis où l'Union européenne s'est prononcée à demander à l'État des États-Unis considéré de ne pas exécuter telle personne. Et il y a les mêmes éléments au niveau de la Bélarus. Bon, par contre, après, ce sont des, enfin, comme nous, on agit ponctuellement. Enfin, on peut avoir une durée, mais en petit nombre. C'est aussi des éléments ponctuel, mais si on mène une action principale sur la Bélarus, c'est pour justement essayer qu'une insistance soit faite au niveau des ensembles des pays démocratiques pour demander, pour soutenir cette action.
Très bien, et peut-être pour finir cet entretien, une petite citation de Victor Hugo qui disait « La peine irréparable suppose un juge infaillible ». Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Monnet, pour vos éclairages sur ces questions parfois délicates et complexes.
Et c'est ainsi que s'achève le premier numéro de la saison 3 de Le Monde ne suffit pas. On se retrouve bientôt sur les ondes de Transistor, avec en plus une nouvelle voix féminine, celle de Justine Knebelban, qui nous rejoindra pour le prochain numéro.
Mais en attendant, nous vous invitons à découvrir la nouvelle grille de Transistor, notamment le premier numéro de la saison 2 de Transversal, votre émission culturelle, qui connaît cette année quelques évolutions. Bonne écoute et au revoir.